les jardinières. Soyez les bienvenus, nous sommes samedi et comme chaque samedi à la même heure, les jardinières sont de retour.
Et ne vous inquiétez pas, Mylène n'a pas mué pendant la semaine. Ce matin, je suis en compagnie de Mike. Bonjour Mike.
Mais bonjour Raphaël. Pour répondre à toutes vos questions jardinage durant une heure, c'est Olivier Ribaud, pépiniériste chez Olivier, pépiniériste à Port-en-Truy qui est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour, bonjour Olivier.
Bonjour.
On attend évidemment vos questions par téléphone. Vous connaissez le numéro 0900 70 20 20. Pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également y aller par SMS. Vous tapez jardin, vous faites un petit espace, votre question, et vous nous envoyez ce message au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émission, question aux jardiniers. Mais ce sera question aux jardinières, hein. On reste, même si on est contre hommes aujourd'hui, ce sera question aux jardinières.
Et les présentations sont faites, le décor est posé, place aux questions.
7h, 8h, les jardinières.
Alors la semaine écoulée était partagée entre pluie et éclaircie, et les différences de température entre l'aube et la journée sont énormes, étaient énormes, enfin elles sont toujours d'ailleurs. Nous sommes mi-octobre, il fait encore un peu chaud la journée mais déjà bien froid la nuit. Olivier, qu'est-ce qu'il faut faire du côté du potager ?
Alors, du côté du potager, comme vous avez dit, les températures sont variables. Donc, il faut commencer de ranger les derniers légumes qui peuvent y rester, parce qu'on peut avoir des risques de gel. On en a vu déjà hier matin quelques-uns, des petites bouts de plaine, de la Haute-Ajoie, qui étaient déjà un peu blanchies. Donc, si vous avez encore des légumes style citrouille, courge, qui sont sensibles au froid, faut les récolter, les mettre protégés. Et puis, bien sûr, tous les derniers légumes de terre, pommes de terre, carottes, qui peuvent être extraits du sol maintenant, parce que c'est les conditions, le sol est encore un peu sec, même qu'il a plu, c'est pas mouillé très profond, mais ranger tous ces légumes de garde, même les choux, ceux qui ont encore des choux d'automne, pour faire encore les choucroutes pour la Saint-Martin, il faut commencer à y mettre, et les poireaux aussi, on peut les laisser dans le jardin, mais toutes les récoltes, ou protéger ce qui peut y rester, comme par exemple des salades d'automne, si on peut un peu les couvrir, mais en laissant de l'air circuler, on peut faire ces travaux-là encore maintenant.
Justement, on voit les différences de température, 4-6 degrés ce matin, il va faire passer 20 cet après-midi. Est-ce qu'il y a des légumes ou des fruits ou quelque chose dans le potager qui risque plus que d'autres ?
Si je prends l'exemple des salades d'automne, si on a vraiment des grosses différences, puis qu'on les protège trop avec un plastique par exemple, alors elles peuvent pourrir, donc se gâter en dessous au niveau du sol. Si on a des dernières tomates, je sais qu'il y en a qui gardent leurs pieds longtemps, même qui sont un peu sous serre. Donc on a les développements de maladies, mildiaux, oïdiums, qui peuvent faire des dégâts sur les restes de fruits. Donc on peut aussi les récolter, même si elles sont semi-mûres, et puis les finir de mûrir à des températures plus constantes, sur un bord de fenêtre, à l'intérieur ou dans une véranda, pour essayer de prolonger la maturité, puis de les conserver le plus longtemps possible.
Merci beaucoup Olivier. Les jardinières attendent vos questions par téléphone 0 901 70 20 20, pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez jardin, espace, votre question, et vous envoyez ce message au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites sous l'onglet questions aux jardinières.
Et nous serons de retour dans quelques minutes, juste le temps pour vous de sauter sur votre téléphone.
7h, 8h, les jardinières.
Olivier Ribaud est avec nous ce matin et il est prêt à répondre à toutes vos questions jardinage.
Et comme la semaine dernière, vous étiez très nombreuses et nombreux à vouloir nous joindre et à poser des questions à nos jardiniers, on a une question qui est restée sur sa fin. C'est un SMS de Caroline Dorvin qui se posait la question suivante. Olivier, quelle est la meilleure façon de protéger un laurier rose en pot pour l'hiver lorsqu'il est impossible de le mettre à l'intérieur ?
Alors déjà, le déplacer, ce serait bien de le déplacer dans un endroit protégé des courants. On n'a pas besoin de le mettre justement à l'intérieur, mais de le mettre sous un couvert ou vraiment au bord d'un mur ou à l'angle d'une façade où c'est qu'il n'y a pas tous les courants, où c'est qu'il sera abrité, donc qu'il pleuve ou qu'il neige pas dessus. C'est déjà vraiment un endroit le principal à choisir. Et puis après, c'est de protéger et si bien le pot, donc ça veut dire entourer son bac, son récipient, son pot avec même des matériaux qu'on trouve sur le commerce spécial pour les hivernages, mais on peut aussi utiliser par exemple du saget ou de l'isolation, bien de la laine de verre qu'on utilise pour isoler dans les charpentes par exemple, si elle a un grand pot, ça arrive des fois. Et puis après, protéger dessous le pot, peut-être le lever et mettre aussi un sagex sous le pot, et puis encore après emballer tout le branchage. Je dirais qu'en premier lieu, c'est de protéger la motte pour l'automne jusqu'au mois de novembre, mi-novembre. Puis quand on commence de voir qu'il fait plus froid, alors là, protéger le branchage. Il faut peut-être pas tout l'emballer, le confiner tout de suite, parce que sinon il va manquer d'air et puis d'humidité par les feuilles. Donc on peut faire ça en deux phases, et puis protéger les branches plus tard, début décembre, et selon la météo qu'on a, ce sont les nuits froides qui arrivent, protéger progressivement. Et puis après, on peut laisser janvier, février, deux mois, tout en surveillant quand même l'arrosage, peut-être tout emballé, tout fermé. Aussitôt qu'on rate des belles journées de février, début mars, où c'est que la lumière revient, alors là, il faut rouvrir le feuillage, le remettre à l'air, et puis essayer de le protéger comme ça, pour lui faire passer l'hiver.
Mais justement, le protéger, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a un seuil de température maximale qu'on ne peut pas dépasser ?
Alors un laurier, s'il descend en dessous de moins 5, moins 6, ça veut commencer d'être compliqué, parce que ses tiges sont remplies de sève, sont remplies d'eau, vu qu'il a encore toujours des feuilles pendant la saison d'hiver, et puis ça peut éclater comme de l'eau dans une bouteille. Donc il faut vraiment faire attention si la température descend trop, protéger, ou peut-être même le rentrer, mais ce serait pas forcément à l'intérieur, mais dans un garage ou dans une grange, ou dans un endroit juste pour quelques semaines dans ces périodes où il fait très froid, et après le sortir derrière pour le remettre à l'air et puis à la lumière.
C'est comme pour les humains, en fait. Moi, du moment qu'il fait moins 5, moins 6 non plus, j'ai pas envie de mettre le nez dehors.
Mais des bonnes chaussettes.
Exactement. On a Mike qui a reçu une autre question par SMS, si je m'abuse.
Exactement. JP de Basse-Cour qui nous dit qu'il vient d'acheter un plant de rhubarbe et il sait pas trop quoi en faire. Alors en attendant, il l'a mis dans un grand bac. Il demande, est-ce qu'il a bien fait ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour le traiter au mieux ?
Alors s'il a acheté ces temps, ce serait bien de le planter directement en terre, au jardin, car la rhubarbe, c'est une grande racine, un grand rhizome, qui va sortir des nouvelles feuilles au printemps, qui sont celles-là qui seront intéressantes. Donc la première année, il n'en consommera pas, il laissera son plant de rhubarbe croître, pousser le plus possible. Et justement, en le plantant maintenant, il va se mettre en place, il va faire des racines, il faut y mettre une terre très riche, très, très, très riche en éléments, donc en compost, en fumier, pour que cette rhubarbe se mette en place et fasse beaucoup de racines pendant l'automne et jusqu'à l'hiver, et puis après au printemps, elle pousse tout de suite pour que son pied grossisse le plus vite possible. C'est par rapport à la pousse qu'on aura les plus belles tiges et les plus belles bâtons de rhubarbe par la suite. Donc il va plus pousser au jardin que de le laisser dans son pot.
Très bien, merci beaucoup Olivier. On espère qu'on a répondu à la question de JP. 0 901 70 20 20, ça c'est par téléphone pour 36 centimes la minute. Si vous voulez poser vos questions à notre spécialiste, vous pouvez également le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question, et vous envoyez ce message au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites sous l'onglet émission, questions ou jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières en mode jardinier ce matin, puisque Mylène, on lui souhaite de bonnes vacances hein, quand même, qu'elle profite un petit peu, puisqu'elle est, nous aussi on a du soleil, mais elle a la chance d'être au soleil. On vous rappelle, faites pas vos timides, on attend vos questions par téléphone 0 901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également passer par SMS si vous n'avez pas envie de passer et de nous exposer votre belle voix à la radio. Vous tapez jardin, un espace, votre question, et vous envoyez tout ça au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émission, questions aux jardinières.
Question par exemple que Clotilde des Breleux nous a posée. Entendons ma pelouse, une de mes courges butternut s'est détachée. Elle ne la trouve pas complètement mûre. Est-ce qu'elle peut la laisser dehors pour qu'elle continue de mûrir, ou est-ce qu'il faut plutôt la rentrer à l'abri, ou est-il possible de la rattacher ? Elle ne sait pas tellement quoi faire.
Alors, la rattacher, non, c'est pas la peine, ça se recollera pas. Maintenant, si elle l'a... C'est une courge qui n'est pas forcément mûre et puis déjà complètement en maturité, c'est pas grave. Elle va la laisser justement sur une fenêtre, un petit peu au soleil, à l'air, et cette courge va continuer de se mûrir naturellement. Elle peut peut-être se gratter plus vite qu'une courge qui est bien mûre et puis avec une peau bien, bien ferme. Donc si elle se gratte, il faudra surtout qu'on voit les premiers symptômes qu'elle peut pourrir ou autre, et bien, ce sera de la consommer rapidement. Et puis ce qui peut arriver, c'est que quand elle l'utilisera, un butternut, il a une chair très orange, ça fait des soupes très concentrées, très goûteuses, et si elle n'est pas assez mûre, et bien ça enlèvera cette saveur et puis cette couleur belle orange à son potage, mais qui sera tout à fond comestible sans problème.
Mais justement, comme on parlait en tout début d'émission de ces différences de température, le fait qu'elle soit détachée, est-ce que c'est pas un vrai risque pour cette courge ?
Non, c'est un peu comme les tomates. À un moment donné, même si elles sont pas, elles sont bien développées, elles ont déjà une certaine forme. Si on les détache, elles vont continuer de mûrir naturel avec les réserves qu'elles ont emmagasinées justement dans ce fruit. Et ça va faire une peau un peu plus dure toujours et puis changer un peu de couleur. Mais c'est des fruits qui sont plus délicats parce qu'ils sont plus nourris par la plante mère. Donc, ils peuvent se gâter plus tôt. C'est pour ça qu'il faut surveiller. Puis, à un moment donné, il faut les consommer quand même parce que sinon, ils ne se garderont pas aussi longtemps qu'un fruit qui a été mature jusqu'au bout et puis qui peut rester longtemps pendant l'hiver.
On espère avoir répondu en tout cas à la question de Clotilde. Merci beaucoup Olivier. On enchaîne avec une autre question qu'on vient de recevoir sur notre site internet. En pleine vendange, Marceline rêve d'avoir des vignes dans son jardin. Ce serait simplement pour les consommer frais, hein, parce qu'elle le précise, elle ne compte pas se lancer dans le commerce de vin, même si ben, nous on serait pas contre un petit verre de vin avec un bon légume. Quelle variété lui conseilleriez-vous et vers qui se tourner pour acheter ses pieds de raisin? Et bien sûr, est-ce le bon moment pour les planter?
Alors ça fait beaucoup de questions en une. Hein.
Alors, est-ce qu'on les reprend toutes dans l'ordre peut-être? Quelle variété est-ce que vous pourriez lui conseiller, Olivier?
Alors au niveau des variétés, c'est vraiment ça qui est important parce qu'elle la précise, c'est pas une culture de raisin comme on voit dans les vignobles, donc des pieds alignés l'un à côté de l'autre tous les 50 ou 1 mètre. Ce sera des pieds de raisin qui seront en plante grimpante. Souvent un raisin, on va le mettre contre une barrière, contre une façade, une palissade, et on va faire grimper notre raisin qui va atteindre 2 mètres, 3 mètres si on a de la place, et puis qu'on va avoir plusieurs grappes de fruits qui vont s'agripper sur cette palissade. Et puis après, on va retailler ça en conséquence pour avoir des fruits chaque année. C'est pas comme un pied qu'on met en ligne et puis qu'on a que quelques grappes sur pied. Donc en variété qui sont très connues et puis qui donnent vraiment des bons raisins assez grands à manger, c'est la variété Buffalo, c'est un raisin bleu. Les gens, mes clients qui en ont, sont très contents. Ça fait des raisins plus grands qu'un pinot noir qui est moins intéressant au niveau culture parce qu'il est plus petit, puis le grain est fin et les pépins sont grands. Alors c'est vraiment des cèpes qui sont utilisés pour la vinification. Donc après, c'est un petit peu à trouver dans le commerce, mais bien sûr, ou à tous les points de vente, tous les jardiniers qui vendent des pieds de vigne peu conseillés. Mais ce fameux Buffalo bleu, c'est une bonne variété. Dans le blanc, bien sûr, c'est le Chasselas qui est connu, qu'on peut planter facilement, mais c'est des raisins qui sont adaptés à chez nous, puis qui seront en plante grimpante, comme on disait au début.
Donc si je vous comprends bien, en fait, on peut se tourner vers des acheteurs qui ont un peu l'habitude de ces pieds de raisin, justement.
Oui, tout à fait. Toutes les jardineries, nous, on vend des pieds de raisin qui sont justement pour ça. La personne qui veut faire du vin, donc, ça va plutôt se tourner dans une pépinière de vinicole de pieds qui va être produit que pour les vignerons.
Et puis justement, ces vignes, si quelqu'un veut planter des vignes, qu'il habite plutôt sur le littoral, au bord du lac ou plutôt dans les montagnes, est-ce qu'il faut le prendre en compte quand même au niveau de l'ensoleillement?
Alors oui, mais ces variétés qu'on trouve dans le commerce pour les amateurs et les personnes de tout le monde, c'est des plants qui ont été produits par des spécialistes de pépinières, donc qui sont été sélectionnés. On peut planter du Buffalo sur le littoral ou au Jura, il va pousser. Par contre, la maturité sera décalée. Dans les franches montagnes, on en a, mais il leur faut plus de temps pour mûrir. C'est un peu maintenant ou encore pendant 15 jours, 3 semaines qu'on pourra le cueillir. Dans des endroits plus chauds, plus abrités, c'est déjà récolté ou mangé.
Et puis, pour conclure avec ces vendanges et ces vignes, est-ce que c'est le bon moment pour les planter?
Tout à fait. Tout ce qui sera plantation d'automne, comme maintenant, raisins, mais moi aussi tout ce qui sera fruitier. On commence les plantations maintenant et on peut planter ça jusqu'à vraiment quand le terrain sera plus possible d'être praticable, donc trop gelé. Mais on dit toujours planter au mois d'octobre-novembre, la période de Sainte-Catherine, donc le 25 novembre, c'est les meilleures périodes de plantation. Votre plante va se mettre en place dans le sol, va faire les premières racines avant l'hiver et on ne le verra pas, mais au printemps les racines vont sortir janvier, février, mars très rapidement dans le sol pour après éclore des bourgeons au printemps et se développer. Donc c'est vraiment les bonnes périodes qu'on utilisait dans le temps le plus et qu'il faut encore pratiquer pour planter, c'est à l'automne sans problème.
Eh bien, merci beaucoup Olivier. Mission gourmande ce matin entre les légumes, le vin, le raisin.
Bientôt ça donne
envie. Ouais, exactement. On attend d'ailleurs vos questions par téléphone 0900 à 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Également par SMS, vous tapez le mot jardin, un espace, votre question, vous envoyez le tout au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. On se retrouve juste après un point météo et un point inforoute.
Les jardinières.
Les jardinières sont de retour, enfin les jardiniers plutôt pour ce matin.
C'est complètement ça.
On est d'accord et nous attendons avec impatience toutes vos questions jardinage. Ce matin, c'est Olivier Ribaud qui nous fait le plaisir d'être avec nous, pépiniériste à Porrentruy. Et si vous avez des questions à poser à Olivier, n'hésitez pas, 0901 70 20 20, 36 centimes la minute. Ou alors vous prenez votre téléphone, vous envoyez un petit SMS en tapant jardin, un espace, votre question et vous envoyez le tout au 939. Et puis si vous êtes plutôt du internet, allez sur notre formulaire à dispo sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Et les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin et nous sommes là jusqu'à 8h. Et Olivier, on va enchaîner avec une question par téléphone. On a un courageux qui nous a appelé par téléphone, c'est Thierry de Rebevelier. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour.
Votre question pour notre spécialiste ce matin.
Alors ma question pour notre spécialiste Olivier, c'est que j'ai quelques plants de raisin aussi chez moi, et puis il va très bien jusqu'à environ un mois avant la cueillette, puis après ben, il chope toutes des petites taches noires sur le raisin, donc okay. Sur les grappes, et puis ben, après il flétrit un peu très rapidement avant de mûrir. Alors je ne sais pas si on a un traitement qui serait un peu assez biologique à faire, ben, tout dans ce genre-là, mais ça fait 2 ans de suite maintenant que ça se passe comme ça.
D'accord. Monsieur Vutrich, votre raisin, je pense que ce serait bien de peut-être le protéger. Bon, traitement, on peut utiliser des traitements bio comme la bouillie bordelaise ou alors des produits comme à base de cuivre qu'on peut utiliser sur les vignes, ça marche. Peut-être aussi, ce serait bien de peut-être l'éclaircir un peu. Ça veut dire que peut-être qu'il y a trop de grappes par rapport à la plante, ça arrive aussi souvent. Et puis que la plante, le pied, la sève n'arrive pas à garder et remplir en fait les raisins complètement. Et puis après, ils viennent faibles et puis ils sont attaqués justement par une moisissure. Ça peut être de l'oïdium, du mildiou qui s'installe dessus. Moi, peut-être quand vous en hiver au printemps vous le taillez, après il va redébourrer, il va refaire ses fleurs, il va avoir des grappes, faire un peu une sélection, d'en garder peut-être moins, garder des grappes un peu espacées, qu'elles ne se touchent pas trop, pour que l'humidité ne se et puis effeuiller un peu autour de la grappe, pour qu'il n'y ait pas d'humidité qui soit trop stagnante autour de ces grappes, parce que vu que c'est une tache, une petite tache noire, brune, comme vous dites, ça doit être un champignon, une pourriture qui s'installe, et puis après, ben, une fois que ça se développe, ça provoque justement ce flétrissement, que le raisin ne grossit plus, la plante ne remplit plus la réserve du raisin. Donc peut-être faire une sélection pour avoir moins de grappes, puis qu'il soit plus forte. À mon avis, j'ai essayé ça.
Ouais. Bon, alors, j'éclaircis pas mal déjà, puis j'enlève les feuilles, tout ça, à chaque fois.
Ouais.
Je sais pas, mais bon, peut-être je vais faire un traitement, je sais pas. Je vais
alors, essayez quelques traitements à base de cuivre, le faire déjà assez rapidement, quand les raisins sont bien formés, après, le laisser fleurir, le laisser venir les grappes, et puis les traitements sur des jeunes grappes, pour ne pas être obligé de les faire trop tard, quand le raisin commence d'être bon à être mangé. J'entends, il faudrait le traiter avant. Une fois qu'il est protégé, eh bien, il ne sera pas attaqué plus tard sur ses fruits. Donc, essayez comme ça.
D'accord.
Ça peut venir aussi, ben, comme on parlait avant, de variétés de raisins. Ça peut venir des variétés qui sont plus sensibles certaines que d'autres. Ça, c'est sûr. On parlait du buffalo pour un raisin bleu. C'est une variété qui est beaucoup mise chez les particuliers parce que c'est un raisin qui résiste à beaucoup de maladies. Puis que même si le feuillage est malade, le raisin, j'ai vu des raisins qui sont très beaux, mais le feuillage est vraiment pas beau parce qu'il est tout malade. Alors, ça peut être aussi à cause de la variété.
D'accord. Et puis les traitements en cuivre, on trouve ça dans le commerce bien.
On trouve ça dans tous les commerces spécialisés qui vendent des petits emballages de cuivre. Donc ça peut être du cuprosan, du cupromag, il y a différents. Mais ça, il faut voir avec le vendeur ce qu'il a, lui, à vendre et où ce qu'on peut trouver sur le marché. Ça évolue
d'accord.
Souvent, ça change aussi souvent. Mais des produits à base de cuivre. Voilà.
Ok, ça marche.
Merci beaucoup Thierry pour vos questions. On espère que Olivier a bien répondu à toutes vos questions. Et n'hésitez pas à faire comme Thierry. Bonne journée Thierry, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci, apparemment, au revoir, bonne journée.
N'hésitez pas à faire comme Thierry, 0900 70 20 20, 36 centimes la minute, ou nous envoyer un SMS. Et justement, Mike, je crois qu'on en a reçu des SMS.
Exactement, c'est Stéphanie qui a une question de saison, puisqu'elle doit couper ses géraniums avant l'hiver. Et puis elle se pose la question, est-ce qu'il faut qu'elle les coupe droit avant de passer l'hiver? Enfin, comment doit se passer la coupe?
Alors, ces géraniums devraient être coupés justement pour les rentrer. Il y a deux types de géraniums. Il y a le géranium zonal, donc le géranium qui pousse naturellement droit. Et on a les géraniums, le roi des balcons, qui c'est les géraniums qui sont plutôt retombants. Donc un géranium droit, elle va le couper en dirant à peu près par la moitié, pas plus court. Ça dépend aussi le volume qu'elle veut garder ou la place qu'elle a, parce que si on les rabat trop, ben après ils ont beaucoup plus de peine à repousser. Mais on va le couper par la moitié, on va effeuiller le maximum de feuilles malades, tachées et autres, on va enlever toutes les fleurs, tous les boutons, et puis on va commencer d'hiverner ces géraniums comme ça, en réduisant les arrosages, parce qu'on aura réduit le feuillage. On va les mettre où il y a beaucoup de lumière, dans un endroit très très lumineux, et puis justement pas trop chaud, pour pas qu'ils repoussent trop vite. Il faut les mettre dans un endroit où il fait 8-10 degrés, et ça va les mettre un peu en dormance, ça va les reposer, et puis après, ben, au mois de mars, février, mars, recommencer de les mettre un peu plus à la lumière et puis plus à la chaleur, et là ils vont repousser. Et souvent, ce qui est un petit peu là compliqué, c'est quand ça repousse, des fois ça vient long, ça vient fin, c'est parce que ça manque de lumière, on n'a pas beaucoup de lumière naturelle, donc des fois ils font des longues pousses. Alors là, on peut aussi les pincer, les recouper par la moitié pour les réduire, pour qu'ils viennent pas trop longs, trop vite, avant de les sortir au printemps.
Merci beaucoup, Olivier. Ouais, écoutez, on espère, autrement, elle peut continuer à nous écrire un SMS si c'est pas assez complet, Stéphanie, qu'elle n'hésite pas avec le SMS au 939. On continue. On a reçu également un autre message au 939 qui nous vient de Patricia de Failly. J'ai un cerisier japonais qui a une moitié toute sèche. Est-ce possible qu'il soit atteint du feu bactérien? Ça paraît comme brûlé. Et si c'est ça, que faire?
Alors, les cerisiers à fleurs, donc le beau cerisier à fleurs qu'on voit souvent au printemps avec des belles grosses fleurs roses doubles, on a eu pas mal de soucis, voici maintenant 2-3 années. C'est pas la seule cliente qui a ce problème. Vous avez une branche, deux branches qui se dessèchent complètement. Et le feuillage vient au printemps, puis pendant la saison, le feuillage sèche. C'est une virose, c'est la maladie des cerisiers. On trouve ça aussi sur les cerisiers qui font les fruits. Et c'est compliqué à combattre. Elle ne peut plus faire grand-chose parce que la partie qui est sèche, elle ne repoussera pas. À part sectionner cette branche et l'évacuer et laisser le reste de l'arbre entier, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est une maladie virale, donc elle ne pourra pas la combattre, même si elle traite ou si elle fait quoi que ce soit. Donc ça arrive sur beaucoup de cerisiers. C'est devenu aussi depuis 2-3 ans, on a eu un hiver il y a 3-4 ans en arrière où il a fait très froid, les cerisiers ont certaines branches qui ont éclaté, et ce champignon, cette virose est venue s'installer dans ces branches qui étaient affaiblies, et puis maintenant on a des résultats 2-3 ans après qui sèchent encore à cause de ça. Donc j'ai eu le cas chez d'autres personnes, on coupe et on essaie de garder le maximum ce qui est vert pour le reformer. Ça peut encore arriver sur d'autres branches l'année prochaine, en espérant que c'est pas tout l'arbre qui y passe, mais en c'est effet délicat. Mais il n'y a pas de sanctions chimiques à mettre ou comme ça. C'est juste le raccourcir et puis laisser en espérant pousser le mieux possible.
Eh bien, merci beaucoup Olivier pour la précision de ces réponses. Si vous aussi vous avez besoin de réponses précises comme celle-ci, n'hésitez pas, on est là, 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également le faire via SMS en tapant jardin, un espace, votre question, et vous envoyez le tout au 939 ou alors directement sur le formulaire qui est à votre disposition sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Mais là pour l'heure, c'est Anastasia qui arrive.
7h, 8h, les jardinières.
Dernière ligne droite des jardinières en ce samedi 12 octobre. Nous sommes toujours en compagnie de notre spécialiste et vous continuez à nous écrire par SMS au 939 et vous pouvez toujours nous appeler. N'hésitez pas, 0900, j'ai perdu le numéro, c'est pratique, 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et on a reçu un SMS qui nous demande, lors du bêchage automnal, faire de gros morceaux de terre. En cas de gel, cela donne une terre très fine. Est-ce que cela joue un rôle préventif contre les maladies ?
Alors, beaucoup de maladies, je dirais que c'est possible, mais l'avantage de faire des bêchages d'automne comme ça, on peut y incorporer en même temps, on va bêcher sur une ligne, donc on aura une rigole, on va incorporer au fond de la rigole un élément, soit du compost, soit du fumier, soit des feuilles qu'on a fait composter. On va les mettre dans le fond, on va retourner nos mottes dessus, et puis le gel dégèle, les pluies d'hiver, tout ça, vont faire que la terre va s'effriter. On va faire des bêchages comme ça dans des terres qui sont lourdes, donc ça va améliorer la structure du sol. Et puis comme ça, si vous faites ça chaque année, l'année suivante, quand vous retournez, vous allez ramener à la surface que vous aurez mis incorporé dans le fond l'année d'avant. Et puis, fur et à mesure, comme ça, ben, votre jardin va devenir ameublé et il sera poreux. Et puis vos plantes, vos légumes et tout ça auront une croissance beaucoup meilleure que si votre jardin est très lourd et très compact.
Ce sera un jardin de luxe.
Un petit peu, oui.
On a une question de Pamela qui se préoccupe un peu puisqu'elle va recevoir d'ici quelques jours un pommier qui mesure presque 1m20. Elle ne sait pas trop quoi en faire ni comment préparer son jardin pour le replanter. À quoi faut-il penser ?
Alors, c'est une bonne question parce que c'est quand même dans une période maintenant actuelle où c'est qu'on va commencer de planter les arbres fruitiers. Surtout qu'un arbre fruitier, en principe, on le plante en racines nues. Ça veut dire qu'il a été cultivé dans des champs et on les arrache, pommiers, damascines. Donc, ce sera le même principe pour tous les arbres fruitiers. Et on va les arracher d'ici une semaine. Ils auront encore quelques feuilles qui vont tomber. Alors, ça, c'est pas grave. Quand elle le plante, alors, s'il enracine, comme je viens de dire, elle va couper les extrémités des racines, les rafraîchir avec un sécateur qui coupe bien, ce qu'on va appeler l'habillage du système racinaire. Et puis après, elle va le mettre en terre avec bien sûr une terre meuble fine. Elle va mettre un tuteur. Donc le tuteur, ce serait bien de le mettre dans le trou avant de planter l'arbre. Comme ça, elle va appuyer son arbre contre. Comme ça, elle est quitte de perforer une ou deux ou un grand morceau de racine. Puis après, ben, elle va remplir de terre, la tasser au fur et à mesure, secouer l'arbre pour que la terre rentre entre les racines. Et puis après, l'attacher. Et puis, ben, lui mettre un bon arrosage pour que cette terre vienne bien imbiber. Puis après, le laisser comme ça tout l'hiver. Il va faire un système de racines radicelles sous le sol qu'on ne verra pas parce que la terre est encore chaude, donc les racines vont ressortir. Et puis au printemps, ben, cet arbre va éclore, va faire des bourgeons. Et puis c'est un arbre qui passera l'été prochain beaucoup mieux que si elle fait une plantation de printemps. Parce que justement, les racines seront déjà bien développées et puis ils auront eu le temps de descendre en profondeur pour aller chercher l'humidité pour l'été suivant.
Merci beaucoup Olivier. Je crois que Raphaël, vous avez quelqu'un qui a une question par
téléphone.
Exactement,
il fallait une présence féminine dans les jardinières. Bonjour Ariane, votre question pour Olivier, notre spécialiste.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, j'ai des tomates que oui. J'avais plantées, donc, et puis j'en ai encore, il y en a beaucoup, mais elles sont encore beaucoup vertes.
Oui.
Alors, je voulais savoir, est-ce que je peux encore les laisser là, parce que bon, il y en a aussi énormément, puis les... Ça tombe tellement que c'est lourd, j'ai des grandes et tout. Et puis, je voulais voir si, est-ce que je peux encore les laisser un moment comme ça, ou bien il faut les ramasser puis les faire mûrir, je peux les mettre dedans puis les faire mûrir comme ça, ou bien...
La chose qu'on peut encore faire, parce que bon, on a des nuits qui sont encore pas trop froides, vous pouvez encore les laisser quelques temps. Il faudrait éliminer la totalité du feuillage, laisser que les tomates sur les tiges, pour qu'elles aient le maximum de lumière et de soleil qui viennent s'intégrer autour, pour les faire mûrir le plus vite possible.
Ouais, parce...
Après, quand on arrivera d'ici une quinzaine de jours, si vraiment il veut geler, puis qu'elles sont pas assez protégées, là, vous pouvez tous les cueillir. Et puis les plus matures vont continuer de rougir. Par contre, les plus petites peuvent ne plus venir rouges, rester vertes. Mais on peut les consommer.
Il y en a certaines qui ont des taches brunes. Elles mûrissent un peu, puis après tout d'un coup, elles ont des taches.
Ça, c'est dû à l'humidité. Donc, à part, il y aurait dû faire des traitements avant. Donc maintenant, vous ne pouvez plus rien faire que quand vous les consommerez. Couper ces parties trop brunes, trop noires, sinon vous allez être obligé d'y mettre des produits. Puis ce n'est pas le but de fait de cultiver des tomates soi-même, c'est pour ne pas avoir des tomates qui ont été mises avec des produits chimiques. Donc vous pouvez les garder le plus où il n'y aura pas trop d'humidité, à l'intérieur sur une tablette de fenêtre où il fera chaud, sans humidité, c'est pour ne pas développer. C'est quand même un champignon qui s'est développé sur la pelure de la tomate, et puis au fur et à mesure, il va toujours grandir. Donc essayez de les garder où c'est le plus sec possible, un peu de chaleur pour qu'elle puisse finir de mûrir. C'est la seule solution.
D'accord. Et puis, est-ce que je dois les emballer ou bien parce que j'ai entendu dire qu'il faut les mettre dans du journal ou du papier?
Non, parce que si on non, parce que si vous emballez un fruit qui mûrit par le soleil, vous allez casser cet contact lumineux, donc il va mûrir beaucoup moins vite. On emballe une tomate avec un papier, c'est quand elle est mûre pour la ralentir la maturité. C'est pas pour la faire mûrir.
Ah, d'accord, oui.
C'est pour qu'elle ne mûrisse pas trop vite. Comme si on emballe un concombre avec un papier humide, la peau mûrira moins vite, il sera moins amer. La tomate, c'est pareil, ça mûrira. C'est pour les garder le plus longtemps possible. C'est pas pour les faire mûrir.
Ok. Voilà. Alors, bon, je peux encore attendre. Bon, moi, je suis à 1000 mètres, hein, donc la semaine passée, on a eu une gelée, une nuit déjà. Alors, je peux quand même encore attendre.
On peut encore un petit peu attendre, mais après, les cueillir, les mettre dans un endroit plus chaud, puis ils mûriront plus vite. Surtout que ça va encore quelques semaines avant qu'ils ne viennent rouges. Donc, n'attendez pas trop longtemps, parce que sinon, s'ils gèlent, après, elles vont pourrir. Ça sera moins bien.
Voilà, justement. Bon, elles sont quand même bien abritées, mais bon, je pense maintenant. On est parti pour les gelées.
On est en automne, oui. Merci beaucoup. Exactement. Alors, merci.
Oui.
Merci beaucoup, Ariane.
Bonne
journée à vous. Merci, Ariane.
Merci à vous aussi.
Continuez à nous écrire par SMS. On a des SMS qu'on va devoir garder en stock parce que le temps passe vite. Et il est presque l'heure de relâcher Olivier à ses activités. Ce matin, nous avons parlé de courge, butternut, de géranium, de tomates ou encore de raisin. Et je me dis qu'en période de vendange, c'est presque logique de parler raisin ce matin dans les jardinières. Olivier, avant de nous quitter, quelques conseils à nos jardiniers amateurs pour entretenir le jardin mi-octobre.
Eh bien, on a parlé, justement, vous dites, à plusieurs sujets. Donc, la vigne, maintenant, c'est vendangé, mais on va la laisser se reposer. On la taillera plutôt plus volontiers au printemps. Par contre, je reviens sur les plantations d'automne, donc les arbres fruitiers. Tout arbre fruitier, c'est vraiment maintenant le début des plantations. Vous pouvez aussi entretenir vos plates-bandes de rosiers. Ça veut dire qu'on les laisse finir de fleurir. Et puis là, on va commencer de couper à une certaine hauteur. On dit couper à 20, 30 cm du genou, un bon 30 cm sur certaines grandes variétés de roses, tous les égaliser comme ça, puis les préparer pour l'hivernage. Ça veut dire leur ramener une bonne couche de soit compost, soit de fumier pour les enrichir le sol et puis les protéger après, plus tard au mois de décembre avec des branches de sapin. C'est ce qui provoquera que l'année prochaine vos rosiers repousseront plus fort. Donc c'est des travaux d'automne. On a parlé de bêchage du jardin, on peut commencer, finir de récolter les derniers légumes, mais je dirais que le plus grand travail maintenant, c'est les entretiens de taille, de commencer de ramasser le feuillage pour ceux qui veulent les composter, les mettre de côté. Et puis, commencer gentiment de s'attaquer aux tailles de fruitiers d'ici un mois, comme ça, jusqu'à Noël, dans les dernières belles journées qu'on puisse utiliser pour faire de l'avance avant l'hiver.
Eh bien voilà, le mot d'ordre est donné, on sait quoi faire pour ces prochains jours. Merci Olivier de vous être levé si tôt pour nous rejoindre. On le rappelle, vous êtes pépiniériste chez Olivier Pépiniériste à Port-en-Truy et je vous souhaite un très très bon week-end, à bientôt.
Merci à vous, bonne journée.
Et nous serons de retour samedi prochain pour de nouvelles aventures jardinage. Vous inquiétez pas, les SMS, celui de Jérôme, on le traitera la semaine prochaine et ce sera Philippe Détra, horticulteur bio à Neuchâtel, qui sera présent pour y répondre et pour répondre à toutes vos questions, des questions que vous pouvez poser en tout temps, soit par SMS ou via le formulaire disponible sur nos sites internet. Merci beaucoup Mike d'avoir partagé cette émission avec nous.
Plaisir.
Mylène sera de retour si elle revient de vacances dès samedi prochain. Passez un très bon week-end à tous et à la semaine prochaine pour les jardinières.
7h, 8h, les jardinières.